Radio Primitive.
La radio associative.
Ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Eh bien oui, il n'est pas là, mais il est là quand même, hein, toujours. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Alors ce soir, comme promis, on va vous proposer la deuxième partie de l'histoire de l'émergence du capitalisme en Angleterre au XVIe siècle. On vous invite bien sûr à vous rendre sur le site de Radio Primitive ou sur le site de l'OCL, ocl.l'autre.net, pour pouvoir revenir sur la première partie et réécouter cette émission qui, bien sûr, est très très dense et nécessite qu'on prenne son temps, mais qui relève d'un intérêt fondamental, comme on vous l'a expliqué la semaine dernière et dont on aura certainement encore l'occasion de revenir dessus. Mais évidemment, on va vous dire quelques mots très rapidement sur les résultats des élections qui se sont déroulées ce week-end. On aura l'occasion certainement de revenir sur une analyse un peu plus politique et un peu plus profonde au cours des prochaines émissions, car il est fort à parier que la situation politique et, on l'espère, la situation sociale qui va en découler va être fortement agitée. Alors, on va pas faire les commentateurs de chaîne TV et chaîne info en continu. On va simplement relever quelques traits saillants d'une manière générale et puis parler un petit peu de ce qui s'est passé dans notre département, dans notre ville et dans nos régions. Bien évidemment, le premier trait qu'on va pouvoir relever, c'est bien sûr un décrochage énorme, massif de la population française, hein, puisque ce sont les Français, hein, qui votent et pas les bougnous l'étranger, évidemment. Ceux-là, on leur demande pas leur avis, même si ils participent grandement à la vie sociale et économique de ce pays. Un décrochage donc est vraiment extrêmement important, puisque on est à 53% d'abstention. Les chiffres que je vais vous donner sont pas forcément des chiffres précis à la décimale, hein, mais voilà, c'est quelque chose comme ça, hein. Si je dis des bêtises, mes co-religionnaires évidemment m'arrêteront immédiatement. Donc 53% d'abstention, hein, c'est plus,
Entre 54 et 55 dans la région en Champagne-Ardenne.
Ouais, on est dans la moyenne, ok. Mais une abstention qu'on qualifie de différenciée, parce qu'on ne vote pas pareil, on ne s'abstient pas pareil selon la catégorie sociale et la génération à laquelle on appartient. Effectivement, on a relevé nombreuses reprises dans les commentaires que plus de 70% des 18-35, 74 je crois, c'est ça, c'était abstenu d'une manière générale sur les deux tours et on a retrouvé ces pourcentages au cours du second tour. Alors, 70% pour les 18-25 et 74% pour les 18-35. Alors, c'est intéressant parce que, d'une part, on l'a dit hein, lors des commentaires du premier tour, il y a évidemment plein de façons de faire de la politique et de s'investir dans la vie politique de la société, que ce soit la participation à des associations, les syndicats, les grèves, les manifestations, les engagements différents qu'on peut avoir. Et cette traduction dans l'acte de votation, qui est, on va dire, le signe distinctif de la citoyenneté et de la représentation politique telle qu'elle est traditionnellement incarnée dans la Ve République et dans la société occidentale, plus particulièrement dans la société française, vraiment, elle est arrivée au bout de ses limites, puisque... On l'imagine, et vous l'imaginez très bien, quand on a entre 18 et 35 ans, on est particulièrement actif dans la société, et on est quelque part le cœur de ceux qui font fonctionner la société, ceux qui travaillent, ceux qui produisent, ceux qui agissent dans la société. Et à l'intérieur aussi de ces votants, on a de très très grandes distinctions entre les plus de 60 ans et les plus de 70 ans. Et ceux qui sont quand même allés voter et qui effectivement ne représentent de moins en moins la société réelle.
Alors, ce qui est, pour une fois, s'il y a une chose qui m'a surpris énormément, c'est le nombre. Bon, il y a déjà pas un grand nombre de votants. C'est le nombre de bulletins blancs et de bulletins nuls. Dans ma circonscription, par exemple, ça représente 21% des votants, les deux réunis.
Ah, ça veut dire, ouais, 1 sur 5, ouais, c'est vraiment énorme. Alors, on avait un second tour dans cette circonscription qui était second tour entre la NUPES, la LFI et le Rassemblement National. Mmh. Et dans ton village, dans ta ville, on est sur clairement du périurbain, quoi. On est à 20 km de Reims, c'est ça ?
Oui, 25.
Ouais, à peu près, ouais. Donc, ouais, vraiment là, des gens qui font l'effort de déplacer pour signifier que ça les intéresse pas ce choix. Voilà, quoi. Ça signifie aussi que forcément, celui ou celle qui est élu, il ne retient que 50% de cette, on va dire, minorité de gens qui à la fois se déplacent et à la fois se prononcent. Et donc, on le voit, non seulement c'est une marque du caractère de défiance, mais en plus, ça va la représenter, puisque les gens qui vont décider de la politique et des lois qui vont conduire la vie quotidienne de ceux et celles qui bossent et qui subissent le système, eh ben, ils ne représentent vraiment qu'une minorité. Comment voulez-vous qu'il puisse y avoir un lien dans la représentation de ce qu'on vit au quotidien et dans ceux qui sont censés décider des conditions de notre existence. Alors, ce qui a donc été dit, c'est que clairement, si on regarde les résultats, bon, on peut essayer de commenter ces résultats, même si on vient de le souligner, c'est très parcellaire. Il faut quand même tirer un enseignement qui est limpide, hein, c'est que on a une crise politique majeure qui s'ouvre. Et un quinquennat qui est d'ores et déjà, quelques jours après son début, dans la passe. La réalité, le ciel, est tombé sur la tête du camp présidentiel avec ce résultat, puisque la Confédération, le cartel des soutiens, enfin de ceux qui avaient été désignés comme majorité présidentielle et qui soutenaient le chef de l'État, a remporté 245 des 577 sièges de l'Assemblée nationale. très très loin de la situation qui avait lieu en 2017. Pour bien comprendre ça, La République En Marche, qui est vraiment en gros le parti hein, de Macron, perd quasiment la moitié de ses sièges. Elle en avait 314 en juin 2017. Elle devrait à peine en avoir 160 aujourd'hui, 157 je crois. Donc on a vraiment sur quelque chose qui est hyper, hyper fort.
Alors, en plus, ils ont perdu leur tête. Ils ont perdu le président, l'ex-président de l'Assemblée nationale,
le président du groupe parlementaire.
Oui, voilà quoi. Et pas seulement.
Oui, et d'autres, il y a des ministres, mais aussi d'anciens ministres qui ont été battus. On pense à Blanquer, on pense à Brigitte Bourguignon, la ministre de la Santé, qui sont quand même plus que des symboles, puisque on va dire que la politique de santé et le traitement des travailleurs de la santé était quelque chose qui avait été au cœur. Castaner avait été ministre de l'Intérieur, on se souvient de sa répression des Gilets jaunes et de son arrogance permanente, et tu l'as dit, le président du groupe parlementaire, quoi. Donc c'est plus que des figures, ce sont des comment dire des clés de la politique et de la transmission de la politique du chef de l'État, quoi. Et évidemment, le deuxième point, c'est cette apparition de plus de 80 députés du Rassemblement National, j'allais dire Front National, et ben voilà, du Rassemblement National, qui constitue une première dans l'histoire de la cinquième, puisque certes il y avait déjà eu des députés du Front National dans les années 80, en 86, mais le scrutin était à la proportionnelle, ce qui entraîne beaucoup plus de facilité pour avoir des députés lorsqu'on est minoritaire ou lorsqu'on n'a pas ces trucs. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? On a d'une part un pouvoir qui a joué, évidemment, avec le Rassemblement National, comme il le fait habituellement, hein, soit sous une forme d'épouvantail, soit sous une forme de faux républicain, soit en permettant de mettre dos à dos la gauche rassemblée et le Front National. Et quelque part, là, il aurait été... oui, les extrêmes se rejoignent, tu le sais, hein, évidemment, toujours. Il y a même maintenant des anarchistes d'extrême gauche qui sont à l'Assemblée nationale pour te dire on a gagné, quoi. Hein. Mais on a donc là quelque part un pouvoir qui s'est fait prendre à son propre piège et qui va devoir composer ça et qui aussi se retrouve avec, on va dire, les données structurelles d'une abstention et d'un mode de scrutin. Alors c'est quand même aussi assez surprenant, non pas que les Français soient des gros cons, ça on les pratique depuis assez longtemps pour le savoir, évidemment, et que les vieux soient réactionnaires, c'est surtout en fait par l'intermédiaire de la pratique politique telle que nous on l'a encore représentée dans nos vieux schémas, hein, qui sont peut-être en fait des vieux schémas. Prenons un exemple qui va nous parler, puisque on le connaît un peu. C'est des généralités, mais il y a des traits qui doivent être assez communs dans d'autres circonscriptions. On a une députée qui a été élue dans la deuxième circonscription de la Marne. Alors, cette circonscription, elle est assez particulière, puisque d'un côté, elle regroupe un bout de la ville de Reims et également beaucoup de campagne et de ruralité. Ce bout de la ville de Reims, il est en plus assez typique sociologiquement, puisque c'est Wilson, c'est Croix-Rouge, c'est donc des densités qui sont extrêmement importantes, avec des gens qui vont peu ou pas voter, voire même pas du tout, et de l'autre côté, des villages assez marqués par... alors, film, c'est encore un peu particulier parce qu'il y a des gens qui vont bosser à Reims, pas trop mettre dans ça, mais quand on pense à des villages comme Reuil, comme le Tardenois, comme Fère, Vendières, etc., Dormant, Port-un-Basson, on a beaucoup de gens là qui vont bosser dans les vignes ou qui sont soit au chômage, soit bénéficiaires des minima sociaux, soit, on va dire, qui vont travailler dans un soit qui travaillent dans l'artisanat, soit qui vont bosser dans les usines qui sont encore un peu présentes, quoi. Donc on a vraiment des gens qui sont complètement impactés, qui sont complètement touchés par le mur de l'inflation qu'on est en train de vivre, le coût de la vie, qui se sentent pas représentés, qui se sentent méprisés, évidemment la question de la mobilité avec l'essence et tout ça. Et de l'autre côté, on a des candidats, pour le coup des députés, qui sont finalement dans une absence totale de pratiques politiques, puisque cette personne, Anne-Sophie Frigou, alors elle est enseignante au collège de Fismes, en histoire-géographie, peut-être que ça lui crée une petite notoriété. À noter d'ailleurs que on a quand même des gens qui sont assez opportunistes, puisque cette personne était lors des présidences législatives candidate de Debout la France. Elle était même vice-présidente de ce parti, donc elle a changé de crèmerie, hein. Elle a eu le bon nez pour pouvoir et par contre c'est quelqu'un des gens qu'on ne voit jamais dans le quotidien politique. Pas de tract, pas de local, pas de représentation, pas de démarchage, pas de discussion, etc., etc. Donc on a des gens qui ont certes une base sociale, une base électorale, mais une base politique qui est complètement vide. Donc il est évident que le message, il est à interpréter directement et que de toute façon, étant donné le niveau et l'absence de pratique politique de ces députés du Front National, on risque de voir des gens qui, à l'Assemblée nationale, vont s'effondrer véritablement. Bon, pour ceux qui ont les réseaux sociaux et qui pratiquent Internet, on a bien vu que les candidats, ça volait vraiment pas haut. et on risque d'avoir le même résultat dans l'Assemblée nationale. Bon, ça c'était des remarques comme ça. On va se faire une pause et puis on va présenter la deuxième partie de notre émission sur l'émergence du capitalisme.
Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume donc, encore moins d'espace vital et nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme c'est comme de nous dire que la France avance alors qu'elle pend par la répression, stop et net la délinquance. S'il vous plaît, un peu de bon sens, écho ne régleront pas l'état d'urgence à coup sûr. Ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà des années que tout t'aurais dû péter. Dommage que l'unité n'était de notre côté, mais vous savez que ça va finir mal. La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà. Mais qu'est-ce
qu'on attend pour faire faire.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu.
Je ne fais que vivre baïonné,
en effet,
comme le veut la société.
C'est un fait, mais
il est temps que cela cesse. Face à l'allégresse pour que notre jeunesse et même un vengeresse
brûle l'état.
Policier en premier, et on voit la République brûler au même bûcher. Notre tour est venu à nous de jeter les dés. Décidez donc mentalement de s'équiper.
Quoi?
Tes miroirs, tu vois pas, tu fais semblant, tu m'entends pas. Je crois plutôt que tu ne t'accordes pas vraiment le choix.
Beaucoup
sont déjà dans ce cas.
Voilà
pourquoi cela finira dans le désarroi.
Oh, désarroi déjà roi.
Le monde rira l'en élection.
Oh, désarroi déjà roi.
Vous subirez la même pente. L'agonie lente, c'est pourquoi j'en attends tant. Putain de politiques incompétentes, ce qui a diminué la France. Donc l'heure n'est plus à l'indulgence, mais ça vous fait par le feu. Ce qui à mes yeux semble être le mieux, faut qu'on nous prenne un peu plus en sérieux.
Oh,
jamais eu à votre place, je ne dormirai pas
tranquille.
La bourgeoisie peut trembler, les guerriers sont dans la ville. Pas pour faire la fête, qu'est-ce qu'on attend? Pour foutre le feu, allons aller laisser brûler les vieux. Et bien, faut bien qu'un jour il paye. Le psychopathe
veille où?
Sur nos repères qui? Sur nos modèles de toute une jeunesse. Vous avez brûlé les ailes, brisé les rêves, tari la sève de l'espérance. Oh, quand j'ai pensé
il est bon qu'on y pense. Il est temps que la France daigne prendre conscience de toutes ses offenses. Face de ses hontes, des leçons à bon compte. Mais quand bien même la coupe est pleine, l'histoire l'enseigne, nos chansons vaines. Alors plutôt que cela traîne ou ne traîne, même encore plus de haine. Une étion ne pourra s'inérer ce système.
Oui, mais qu'est-ce qu'on a comme bon fond, c'est pas mes caisses. Mais qu'est-ce qu'on a comme bon fond, c'est pas mes caisses. Mais qu'est-ce qu'on a comme bon fond, c'est pas mes caisses.
On a fait que nous, on est réglés si jamais qu'est.
Mais qu'est-ce qu'on a comme bon fond, c'est pas mes caisses.
You burn the place with
mes caisses. Mais qu'est-ce qu'on a comme bon fond, c'est pas mes caisses.
Ben oui, qu'est-ce qu'on attend? C'est vrai, depuis le temps, ça fait 10 ans, 15 ans qu'elle existe cette chanson et toujours, la question reste toujours autant posée. Alors, ça fait un petit moment qu'on attend de foutre le feu depuis au moins la naissance du capitalisme, ça c'est sûr. La semaine dernière, on vous proposait l'introduction de cette longue interview qui traite de l'émergence du capitalisme en Angleterre à l'époque moderne. Dans la première partie, Armand et son interlocuteur revenaient sur les différents débats et sur la société de l'Ancien Régime. Et dans cette deuxième partie, il y en aura une troisième la semaine pro. Armand et son intervieweur vont essayer de nous décrire les conditions politiques et la violence qui a précédé l'apparition ce mode d'organisation de la société, ce mode d'organisation du commerce, de la production et ces nouvelles relations sociales qui vont émerger en Angleterre à la suite de profonds affrontements entre différents groupes sociaux qui vont se traduire à travers des guerres de religion d'une part et une transformation du régime politique d'autre part. Ils vont l'expliquer beaucoup mieux que moi et à la suite de ça, il nous restera quelques minutes, on écoutera une chanson qui s'appelle Digger Song et le mouvement des Diggers, c'est un mouvement qui sera décrit dans l'interview de Armand. Voilà, bonne écoute et à la semaine prochaine peut-être ou en tous les cas à la fin.
Toujours sur Radio Libertaire, donc dans l'émission Sortir du capitalisme, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître ni publicité. Et donc on va rentrer dans la seconde phase de cette émission et là on va rentrer un peu plus dans les détails sur la question de l'émergence du capitalisme en Angleterre. Donc avec Armand Paris, toujours avec nous, on va distinguer trois phases. La première avec la crise du féodalisme au XIVe siècle jusqu'au milieu du XVIe siècle, avec on va dire une restructuration un peu du système agraire en Angleterre. Après, on rentrera un peu dans l'analyse d'une seconde phase. Qui est un peu la genèse de la guerre civile qui a éclaté en Angleterre dans les années 1640, au début 1650. Essayer un peu d'analyser les restructurations qui ont eu lieu à ce moment-là. Et puis après, on analysera une troisième phase de l'émergence du capitalisme en Angleterre avec la période qui s'étale de 1689 à 1832 et la révolution militaire anglaise, et en gardant un peu à l'esprit aussi nos indicateurs, pour parler un peu caricaturalement sur la question du capitalisme, c'est-à-dire l'émergence d'un marché unifié, d'une logique de vente de force de travail et une logique aussi d'entrepreneuriat et de profit au niveau des producteurs particuliers. Donc voilà, regardez aussi comment ces spécificités émergent en Angleterre. Du coup, si tu pouvais nous donner un peu des éléments, Armand, sur la question de la crise du féodalisme La réponse, il y a eu des réponses différenciées à cette crise entre les différents pays, voilà, que ce soit par la colonisation en Espagne ou justement cette forme de restructuration agraire en Angleterre. Voilà, nous préciser un peu comment est-ce qu'elle se manifeste en Angleterre et quelles sont ses implications.
Alors, bon, tout d'abord, c'est important de préciser que la crise du féodalisme, c'est quoi ? En fait, c'est la conjugaison d'un épisode de peste qui tue un tiers de la population européenne. Cet épisode de peste coïncide en gros avec, disons, une crise de la sphère monétaire et commerciale du féodalisme européen. Et du coup, ça entraîne une crise assez généralisée des revenus seigneuriaux. Globalement, par exemple, jamais les paysans et les artisans n'ont été autant en position de force qu'après cette crise, qui évidemment fait qu'il y a beaucoup moins d'artisans et de paysans, donc du coup, on est obligé d'être un peu plus gentil avec eux, quoi. Alors, du coup, cette crise du féodalisme, il y a différentes réponses de la part des différents groupes dominants en place à cette époque. Et Marx d'ailleurs en parle dans le dernier chapitre du Capital, qui, même s'il y a un certain nombre de problèmes, n'en demeure pas moins intéressant ce qu'il raconte notamment sur l'Angleterre, sur l'émergence du capitalisme en Angleterre. C'est assez intéressant. Donc voilà. Alors, donc cette réponse, comment elle se fait ? Bon, alors en Espagne, donc ça va être le colonialisme, mais il n'y a pas de restructuration des rapports sociaux. On reste sur des rapports sociaux féodaux, et le capitalisme en Angleterre mettra très longtemps à émerger, pas avant le 19e siècle. On reste sur une logique féodale, et je pense que c'est important de préciser que le féodalisme ne veut évidemment pas dire qu'il n'y a pas de monnaie, qu'il n'y a pas de commerce, qu'il n'y a pas évidemment même de force de vente de la force de labeur, qu'il n'y a pas un petit peu de salariat, qu'il n'y a pas tout ça. Si, bien sûr. Et en fait, ça fait partie du féodalisme. Le féodalisme, c'est pas le seigneur qui va ponctionner des cochons et des carottes à son paysan. Le féodalisme...
Des corvées.
C'est ça, des corvées. Mmh. Le féodalisme inclut structurellement, c'est ce que dit par exemple Wallerstein, et là-dessus, il a raison, la monnaie et une partie, par exemple, de la ponction féodale, de l'appropriation du surlabeur paysan par les féodaux, par les seigneurs, se fait notamment par le biais de la monnaie. Il y a du commerce, voilà, il y a même des formes de... pas vraiment de salariat, mais il y a des journaliers, etc., etc. Donc voilà, c'est pas, la question n'est pas là. Alors bon, ça se fait de manière différente en France. En France, globalement, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une espèce de centralisation, entre guillemets, du féodalisme, c'est-à-dire que face à ce groupe paysan, cette classe paysanne au sens non capitaliste, qui globalement est dans un rapport de force plus favorable parce qu'ils sont moins nombreux, donc ils peuvent négocier les terres qu'ils vont occuper, ils peuvent négocier des rentes à la baisse, etc., etc. Il y a énormément de révoltes à cette période, donc la réponse des seigneurs du groupe féodal au sens très large, hein, jusqu'au roi, qui est le seigneur des seigneurs, hein, tout simplement, ça va être globalement la centralisation pour opérer un renouvellement du prélèvement sur les paysans. C'est-à-dire que l'absolutisme, c'est avant tout un moyen de renouveler, de retrouver le niveau de prélèvement seigneurial avant la crise du féodalisme. Et donc ce qui fait que les seigneurs vont non seulement obtenir des avantages de la part de l'absolutisme, donc par exemple ils vont obtenir le droit, ils vont pouvoir s'approprier une partie des communs avec le droit de triage dans les années 1660, ils vont pouvoir demander tout un tas de droits, tout ce qu'on appelle les droits féodaux, ils vont pouvoir retrouver le prélèvement qu'ils avaient, et en plus ils vont bénéficier d'une partie du prélèvement monarchique. Parce que, par exemple, certains seigneurs vont acheter des charges judiciaires, des charges de magistrats royaux et tout ça. Et les titulaires de ces charges récupèrent une partie des impôts qui sont prélevés par la monarchie. Et la monarchie arrive à capter ces impôts, et bien tout simplement parce qu'elle a une force armée. Voilà. Donc en France, ça va se passer comme ça. Ça va être une espèce de d'augmentation, enfin de rétablissement du prélèvement féodal, qui se fait beaucoup sous forme d'argent, effectivement. Voilà, par l'absolutisme. En Angleterre, la sortie de crise du féodalisme, donc tout ça, évidemment, en France, ça va donner naissance à l'ancien régime. Voilà. Alors, en Angleterre, la sortie de crise va se passer différemment. C'est-à-dire que les seigneurs, face à cette situation, plutôt que de chercher à, ils vont essayer de rétablir leur ponction à des niveaux antérieurs à la crise du féodalisme, mais ils vont pas réussir pour tout un tas de raisons. Et du coup, la solution qu'ils vont trouver, ça va être tout simplement d'entamer un premier cycle d'enclosure, c'est-à-dire d'exproprier une partie de la paysannerie, des communs notamment, pour mettre à la place des moutons.
En sachant qu'il y a déjà eu une crise de main-d'œuvre liée à la peste aussi.
C'est ça, voilà.
Au XIVe siècle.
Du coup.
C'est un peu dans la continuité aussi d'une déstructuration du tissu agraire en Angleterre.
C'est ça, il y a des terres de libre, et donc du coup, les seigneurs vont tout simplement se les approprier, et ils vont mettre des moutons dessus. Ça demande très peu de main-d'œuvre, qu'on n'a pas besoin de payer très cher. Et toute cette laine va ensuite être envoyée sur, des proto-industries qui sont non capitalistes, qui font partie de ce qu'on pourrait appeler le commerce, voilà, pas une logique capitaliste, dans les Flandres, voilà. Et donc du coup, les seigneurs vont essayer de rétablir leur niveau de prélèvement. Par ce biais-là, par une première vague d'enclosure. Et cette première vague d'enclosure, elle va avoir comme conséquence qu'elle va qu'elle constitue une première vague d'expropriation de la paysannerie, pour l'instant, c'est une toute petite partie, hein, de 1350 à 1550, mais qui va se retrouver jetée de ses terres et qui va donc devoir aller en ville. Voilà, c'est déjà le début de la croissance de Londres, mais on reste sur des niveaux quand même assez assez faibles, et donc bon, il y a quand même un petit salariat qui se développe en Angleterre, mais pour l'instant on n'est pas encore sur un véritable basculement dans le capitalisme, mais il y a déjà une logique assez importante qui s'amorce.
Et Londres, qui en 1530 compte environ 50 000 habitants, si je ne me trompe pas, mais qui par contre va augmenter en taille entre 1530 et 1700, passer de 50 000 à environ 500 000 habitants, et du coup va être une urbanisation grandissante qui est là assez inédite au niveau européen. Toi, tu peux nous préciser un peu cette dynamique aussi.
Bah, en fait, ça renvoie déjà en fait à la. Bon, alors disons que donc la crise du féodalisme globalement est un petit peu résorbée par cette première vague donc l'enclosure, mais il va y avoir des fortes contestations au XVIe siècle contre ce rétablissement du pouvoir seigneurial, parce que globalement, au début du XVIe siècle, les seigneurs ont retrouvé leur pouvoir, et donc ils essayent de prélever un peu plus de leurs paysans. Et donc il va y avoir d'énormes révoltes de paysans, notamment en 1549, il va y avoir d'importantes critiques des enclosures. Et donc ça va freiner un petit peu le processus des enclosures pendant une petite période, et il va y avoir, je ne sais pas de quand est-ce qu'on pourrait dater ça vraiment, mais disons à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, il va y avoir un nouveau cycle d'enclosures qui s'enclenche, sous le règne des Tudors, notamment après les guerres civiles anglaises qu'on développera pas, parce que les premières guerres civiles, ce qu'on appelle la guerre des roses, bon, on développe pas, mais globalement voilà, c'est la dynastie des Tudors qui gagne, avec notamment Elisabeth Ier, et elle, même si elle met quelques limites quand même au développement, d'une agriculture commerciale, un premier développement très important de l'agriculture commerciale, parce qu'il va y avoir des nouvelles vagues d'enclosures Et ces enclosures, elles ne vont pas se faire au profit de l'élevage de moutons pour vendre de la laine à des ateliers textiles dans les Flandres, pour le grand commerce de la laine, enfin du textile, un commerce donc voilà issu du Moyen-Âge, un commerce précapitaliste, mais plutôt pour pouvoir faire de la céréale principalement. On va faire massivement du blé, et ce blé va aller nourrir un marché qui grossit. Bon, c'est un peu une mécanique circulaire, c'est-à-dire que on exproprie les paysans parce qu'on en a la possibilité et que c'est intéressant pour rétablir maintenir ou agrandir les revenus seigneuriaux. On va exproprier une partie de la paysannerie pour ça, et une partie on va les employer comme journaliers. Et du coup, tous ces gens expulsés des campagnes vont aller grossir les rangs des gens qui à Londres sont dépendants pour leur subsistance, un, de la vente de leur force de travail, et deux, de l'achat sur le marché. Et du coup, ils vont devoir aller acheter du blé. Voilà. Et du coup, il va y avoir une expansion de Londres qui est effectivement assez faramineuse. Voilà, les chiffres que tu as donnés sont à peu près exacts, il me semble. Voilà, effectivement, la population est multipliée par 10 en 150 ans. Et du coup, alors, fin du XVIe siècle, on n'est pas encore sur un marché au sens capitaliste, un marché unifié, il y a des droits de douane, il y a tout un tas d'autres trucs, mais globalement, on est déjà sur une dynamique de commercialisation très forte, c'est-à-dire que les seigneurs vont exproprier les paysans pour pouvoir produire déjà ce qu'on pourrait appeler voilà, des marchandises agricoles qui vont être vendues à Londres. Alors, sauf que Londres, bon, c'est pas encore, ça fait pas encore partie du même marché, mais bon, c'est des zones qui sont pas très loin de Londres, où il n'y a pas vraiment beaucoup de droits de douane, donc on est déjà sur quelque chose qui ressemble déjà un peu à un marché capitaliste. Des historiens comme Robert Brenner et Hélène Mexinsoud, sur lesquels je m'appuie beaucoup pour tout ce que je dis, eux, ils considèrent que c'est déjà du capitalisme, moi je pense qu'il faut attendre encore un petit peu, mais globalement, on est déjà sur une dynamique très forte de commercialisation de l'agriculture qui a déjà dépassé tout ce qu'on a connu jusqu'à cette époque. Je voudrais rajouter une deuxième chose, parce que c'est quelque chose qui se passe aussi à la fin du XVIe siècle, et qui est aussi une dynamique inédite dans l'histoire. Donc cette première dynamique historique, c'est l'expropriation d'une partie quand même de plus en plus importante de la paysannerie, pour la production commerciale de denrées agricoles. Et là, la deuxième dynamique, ça va être, à partir de 1566, il y a une loi qui autorise l'appropriation privée des terrains, des mines, des terrains miniers, des ressources minières, à part l'or et le diamant que la couronne de l'Angleterre se réserve. Et du coup, il va y avoir une ruée vers le charbon, voilà, qui est un moyen de chauffage à l'époque, qui n'est pas encore un moyen de chauffage et un moyen qui sert déjà dans les manufactures qui existent à cette époque. Qui sont peu nombreuses, hein, qui ne sont pas très décisives. Mais voilà, il y a déjà des manufactures qui travaillent dans le domaine voilà, du fer, un peu de la métallurgie. Bon, c'est pas très très développé, mais enfin, voilà, ça existe. Il va y avoir une ruée vers ce charbon, et il va y avoir des enclosures minières. C'est-à-dire qu'on va trouver du charbon, et on va exproprier les gens qui ont leur champ au-dessus de ces terrains miniers. Et il va y avoir une explosion des quantités de charbon. Et c'est aussi ce qui fait que va y avoir un gros développement de Londres et de certaines villes au nord-est de l'Angleterre, parce que les gens sont chassés des campagnes, aussi par accroissement démographique, par tout un tas de logiques, aussi par le fait que les rapports de propriété sont en train de se transformer, c'est-à-dire que les paysans deviennent de plus en plus des locataires de leurs terres, et non plus des tenanciers, comme sous le féodalisme, c'est-à-dire que c'est pas seulement qu'ils doivent donner une partie de leur production, ou de l'argent, etc., etc. à leur seigneur chaque année, c'est qu'en plus, ils doivent louer, enfin, ils doivent payer une rente. Une rente, ils sont locataires. Et bon, s'ils ne payent plus leur loyer, bah, ils se font virer, quoi. Et donc, il y a tout un tas de gens qui sont drainés vers les villes. C'est pas grave. Et donc, ils constituent un marché. Et en plus, on peut les nourrir. Et d'un autre côté, on peut aussi les chauffer. Parce qu'évidemment, en Angleterre, il fait un peu froid. Et du coup, on peut les chauffer massivement. Et on ne peut plus trop les chauffer au bois parce que les forêts de Londres, elles n'en peuvent plus. autour de Londres, elles n'en peuvent plus. Et donc, ce qui fait qu'au début du XVIIIe siècle, l'Angleterre produit plusieurs fois la quantité de charbon que le reste du monde entier. Voilà, donc on est vraiment sur... ça, c'est une deuxième dynamique de production commerciale massive qu'on retrouve qu'en Angleterre et qui est importante à souligner.
Et du coup, au niveau de la structuration, on va dire, des campagnes, on voit là des très, très, très grandes différences avec ce qui s'est passé en France, par exemple, avec effectivement un marché des terres, enfin, des baux très précoces, des grands fermiers, alors que, bon, si on prend le cas de la France, on va dire que les ménagers, les manouvriers partent des campagnes plutôt dans la période de la fin du 18e, courant du 19e siècle. Donc on est sur des temporalités qui ont absolument rien à voir en termes d'exode rural et de constitution d'une main-d'œuvre ou une armée de réserve de salariés potentiels dans les futures industries. Donc on, voilà, sur ce plan-là, on a des dynamiques très singulières en Angleterre. Et peut-être tu peux revenir aussi sur la question de la genèse de ce qui va être la guerre. Enfin, on va passer à une autre période. Mais peut-être revenir sur la question de la genèse de la guerre civile anglaise, qui est aussi un tournant structurant, donc là plus au XVIIe siècle, donc voilà. Mais qui a des liens avec les deux dynamiques qu'on vient de présenter juste avant.
Alors, je pense que c'est important de rappeler que la guerre civile anglaise, c'est globalement des guerres qui durent de 1640, le moment où globalement la guerre civile est déclaré, je vais expliquer de quoi il s'agit, jusqu'en gros au settlement de 1689. Donc en gros, ça dure 49 ans avec des périodes de paix entre deux. Mais globalement, c'est la période dans laquelle on va avoir toute une dynamique de transformation sociale qui sont très, très importantes. Alors avant, donc du coup, de parler de ces transformations sociales, il faut parler de la genèse. Et bien évidemment, c'est de la genèse de la guerre civile anglaise. Alors évidemment, cette genèse, il faut la comprendre à l'aune de ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire des restructurations de la société anglaise au XVIe siècle, et puis avant aussi. Hein. Et ces restructurations, c'est tout d'abord, l'essor de toute une partie, je ne sais pas si on pourrait appeler ça une classe, mais disons de tout un groupe social d'aristocrates qui, pour augmenter leurs revenus seigneuriaux, ont décidé de s'approprier une partie des terres de leurs ex-paysans et de faire de la production commerciale massive de denrées agricoles. Et du coup, cette partie de l'aristocratie, globalement, elle est plutôt hostile à l'absolutisme, c'est-à-dire au roi, à un roi qui chercherait à conserver à tout prix les vieilles structures sociales de l'Angleterre, des Tudors, c'est-à-dire avec beaucoup de limitations sur le marché, etc., etc. Avec le roi, par exemple, donc ça va être l'autre camp, le camp royaliste. Donc il va y avoir le camp révolutionnaire, entre guillemets, et le camp royaliste. Dans le camp royaliste, on va retrouver, par contre, l'oligarchie de la city, qui est, je ne l'utilise pas du tout au sens contemporain, mais au sens où c'est un groupe qui dispose de tout un tas de privilèges juridiques et de tout un tas de monopoles sur le commerce extérieur, sur le commerce extérieur. Les corporations, les maîtres des corporations, donc qui jouissent d'un monopole de protection des villes et tout ça, de régime douanier spécifique et tout ça, vont se ranger du côté du roi. Et la vieille aristocratie, donc l'aristocratie qui s'est pas lancée à fond de balle dans la production commerciale de denrées agricoles, mais qui reste sur un vieux modèle de prélèvement, c'est-à-dire on ponctionne les paysans, mais c'est eux qui travaillent la terre. globalement, eux, ils vont se retrouver dans le camp royaliste. Et dans le camp révolutionnaire, eh bien, il va y avoir, en gros, à la tête, ça va être principalement, ces aristocrates fonciers, mais qui vont former un peu la base sociale en termes d'intérêt de cette révolution. Mais globalement, ceux qui vont la diriger, c'est principalement des marchands. Des marchands, mais qui sont pas des marchands avec bénéficiant de privilèges royaux. C'est des marchands qui eux ne bénéficient pas de privilèges et qui du coup en ont un peu marre des privilèges, qui sont contre les privilèges. Et c'est aussi pour ça qu'ils vont chercher à les abolir. Un petit peu comme la bourgeoisie d'Ancien Régime en France, en 1789, va pas abolir les privilèges parce qu'elle est gentille, mais parce qu'elle en bénéficie pas. Donc elle préfère les éliminer. Et donc, donc d'ailleurs, ces marchands qui n'ont pas de privilèges, ces aristocrates qui se sont lancés dans la production commerciale de denrées agricoles, globalement, ça va être ça, disons la classe dominante du camp révolutionnaire. Après, bon, évidemment, ils vont utiliser des artisans, des paysans, comme soldats et tout ça. La guerre va se déclencher en 1640 parce que le roi de l'époque, Charles Ier, en gros, veut lever des impôts pour faire des nouvelles guerres. Et
il faut peut-être dire aussi que la trame de fond de toute cette histoire, c'est des guerres aussi perpétuelles de l'Angleterre. Donc peut-être repréciser aussi un peu.
Alors là, en l'occurrence, c'est des guerres perpétuelles. Alors bon, il y a différentes grandes guerres avec différents grands adversaires, disons, dans l'histoire anglaise. Là, la période dont je parle, 1640, c'est plutôt les Espagnols. Donc, les Espagnols qui ont tenté d'envahir l'Angleterre en 1588. Et il y a des guerres navales perpétuelles encore dans les années 1630. Et du coup, Charles X veut lever des impôts pour faire la guerre. Alors, je ne sais plus si c'est exactement contre l'Espagne. Je ne le dirai pas parce que je ne suis pas sûr. Mais il veut lever des impôts. Et les aristocrates fonciers qui globalement produisent pas mal de denrées agricoles comme marchandises refusent de voter de nouveaux impôts. Ils voient pas l'intérêt de ces nouvelles guerres. C'est pas des guerres qui leur est avantageuse. C'est des guerres qui ont des buts géopolitiques mais qui offrent pas d'avantages économiques. Comme par exemple la conquête de l'Irlande, ça va avoir plein d'avantages économiques. Mais là, la guerre contre l'Espagne, c'est pas très intéressant. Eux, ils font pas tellement de commerce extérieur et tout ça. Bon, en gros, ils vont refuser de voter ces lois. Donc, cette classe d'aristocrates, progressistes, dans le sens où ils produisent des marchandises, ils restent pas sur le vieux modèle de prélèvement du surlabeur paysan, ce qu'on appelle la gentry. Mais bon, voilà, après, il y a des historiens qui disent... Mais globalement, on peut dire que c'est la gentry. Et donc, cette gentry, elle va refuser de voter les impôts et le roi voulant à tout prix lever ses impôts, ça va finir par une confrontation généralisée. Cette confrontation généralisée, donc, qui a ces deux camps, donc d'un côté, la gentry, les marchands qui ne bénéficient pas de privilèges, les industriels qui sont en dehors du système des corporations, donc globalement, les gens qui n'ont pas tellement intérêt à ce qu'on pourrait appeler l'économie d'Ancien Régime, et puis les artisans, les paysans, tout ça, comme hommes de lige. Et d'autre part, le roi et tous les défenseurs de l'Ancien Régime économique vont s'affronter. Et en 500... alors, il y a plein de revirements, je pense qu'on s'en fout, on n'a pas besoin de les développer. Mais en gros, en 1649, le roi perd et sa tête est tranchée. Et donc, va y avoir la seule période de l'histoire de l'Angleterre de république, de 1649 à 1660, ça va être la République de Cromwell, qui globalement est une république de marchands. Donc les marchands qui ont gagné. Hein. Ces marchands, leur principal ennemi, c'est la Hollande. Et donc du coup, il va y avoir énormément de guerres avec la Hollande. Cromwell va finir par être destitué, enfin par mourir, et puis son fils va être destitué. Et ça va y avoir un retour de la monarchie anglaise avec Charles II en 1660, qui globalement, c'est important de le dire, qui ne cherche pas à revenir sur l'Ancien Régime. Il a compris l'absolutisme à la Charlemagne, ça ne marche pas. On ne gardera pas les vieilles structures, enfin ce qu'on pourrait appeler l'Ancien Régime économique. Et donc, globalement, je vais développer après là-dessus, hein, mais globalement, tout ce qui a été acquis par les propriétaires capitalistes, maintenant, je pense qu'on peut les appeler les propriétaires capitalistes agricoles, tout ce qui a été acquis par eux, c'est-à-dire, je vais quand même le préciser, le droit de propriété. Là, le droit de propriété absolu, il naît de manière certaine, peut-être pour la première fois, en Angleterre, au milieu du 19e siècle. S'il fallait donner une date précise, on pourrait dire 1641, 1642.
Au milieu du 17e.
Oui, au milieu du 17e, pardon. Droit de propriété absolu, qui fait qu'on a une transformation et qui est confirmée par Charles II, parce qu'il faut quand même en parler, en 1660. Et donc, c'est quelque chose de fondamental dans l'histoire, je pense. C'est le moment où on passe d'une relation entre un seigneur et un paysan devant un certain nombre ayant un certain nombre d'obligations, et devant, se faisant ponctionner une partie de sa récolte par le seigneur. Et on passe à un autre modèle, qui est la fameuse triade de Marx, dont Marx parle notamment dans le livre 3, avec le propriétaire capitaliste, qui a évincé tous ses anciens tenanciers, tous ses anciens paysans, et qui est devenu, maintenant, qui est propriétaire de la terre. Il est plus, c'est plus qu'il est, il a des dépendants qui lui assurent un certain nombre de récoltes, qui, bon, lui, il possède pas vraiment la terre, enfin, il en fait pas grand chose, quoi. Là, c'est vraiment, il est propriétaire d'une chose, qui est la terre, et il va la louer. Il va pas, c'est pas, il reçoit quelque chose en échange, non, c'est pas, il reçoit des dons obligatoires, etc., etc. Il va la louer à des fermiers capitalistes. Ces fermiers, il y a un espèce de marché de la rente capitaliste, donc voilà, qui fluctue en fonction du temps, un petit peu comme aujourd'hui, quoi. Et donc les fermiers vont s'amener sur ce marché, bon, qui n'est pas encore généralisé et anonyme, mais ils vont dire, bon bah moi, voilà, je peux vous offrir tant de rentes par an, et bon bah voilà, donc ils vont prendre le plus offrant, et lui, il va acheter de la force de travail agricole. Donc une partie des anciens paysans, il va les prendre comme journaliers, comme salariés agricoles, donc c'est la naissance du salariat, massivement dans les campagnes anglaises au XVIIe siècle. Et ces salariés agricoles, voilà, ils vont produire des marchandises agricoles, ils vont devoir les produire de manière... et le fermier doit s'assurer que cette production va être rentable. Et donc du coup, il y a une compétition généralisée. Tout le monde vend au même marché, qui est globalement le marché de Londres, qui est déjà un énorme marché avec des centaines de milliers d'habitants. Tous ces fermiers capitalistes sont en compétition pour vendre sur le marché de Londres, alors qu'il n'est pas un lieu unique, hein, mais globalement, il va y avoir une abolition des frontières douanières au cours du XVIIe siècle, des frontières douanières intérieures. Donc on est vraiment sur un marché unitaire. Là, on peut parler vraiment de capitalisme. On est sur un marché unitaire, et tous ces fermiers capitalistes se battent pour rester concurrentiels sur ce marché unitaire. Et donc, ils vont chercher à améliorer la productivité agricole. Et c'est pour ça qu'ils parlent toujours d'improvement au XVIIe siècle, d'amélioration. Ils vont adopter tout un tas d'innovations agraires dont on ne va pas parler, parce que c'est trop technique. Et on en parlera dans une autre émission qu'on fera sur l'histoire de l'agriculture. Mais voilà, et ils vont rentrer dans une dynamique de compétition généralisée avec des contraintes structurelles qui conduisent à ce qu'il faut perpétuellement améliorer cette productivité et cette compétitivité. Et donc là, on peut vraiment dire qu'il y a un basculement des rapports sociaux agraires. Et ces basculements, ils sont notamment liés au bouleversement de la guerre civile anglaise, qui ne seront pas remis en cause avec le retour de la victoire du camp monarchiste en 1660. Et alors, juste pour finir sur la guerre civile anglaise, de 1660 à 1685, il se passe, globalement, il y a une certaine stabilité, mais on est déjà dans le capitalisme, globalement.
Après, juste avant que tu passes sur cette phase, peut-être préciser que ça ne s'est pas fait sans heurts aussi dans les campagnes, avec notamment le fameux mouvement des diggers, pendant la guerre civile, parce qu'il y a toute une classe de sans terre et qui ne sait pas comment trouver, enfin comment s'employer ailleurs, et une forme de paupérisation là aussi très forte dès le XVIIe siècle avec les workhouse anglaises, etc. Enfin, Il y a des choses qu'on verra beaucoup plus tardivement dans pas mal de pays là qui s'illustrent aussi à ce moment-là.
Bah, je pense que ouais, t'as raison. Effectivement, il faut rappeler quand même que déjà au XVIIIe siècle, globalement, il n'y a plus qu'une minorité des terres qui est aux terres des paysans. Et en fait, le XVIIe siècle et aussi le XVIIIe siècle, c'est un vaste processus d'expropriation de la paysannerie. Alors, qui n'est pas toujours une expropriation, directe dans le sens « je te prends ta terre et tu dégages », ça peut être des mécanismes d'expropriation par dette. C'est-à-dire qu'au début, les seigneurs vont parfois louer les terres que les paysans occupaient, ils vont les louer aux mêmes personnes, sauf que, comme on est sur un marché concurrentiel, les rentes qui vont être exigées vont être de plus en plus fortes. Et donc, à un moment, le paysan ne sera plus suffisamment rentable pour suivre le niveau de rente qui est exigé, il va s'endetter et il va finir par se faire...
D'où cette logique d'improvement et d'augmentation de la productivité et d'augmentation des profits
et ceux qui
avec
sont...
un marché qui devient concurrentiel aussi et qui est unifié parallèlement avec la baisse des tarifs douaniers, etc. Donc ça, c'est... beaucoup de choses se mettent en place à ce moment-là du point de vue du capitalisme et des indicateurs un peu qu'on voulait regarder.
Et du coup, les paysans sont massivement expropriés, donc que ce soit par les enclosures ou par des processus de dette, d'endettement, et là on est vraiment dans les mécanismes d'expropriation comme aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de paysans aujourd'hui. Effectivement, parfois on saisit la terre arbitrairement, mais souvent c'est des processus d'endettement. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à suivre la course à la productivité du marché, et les contraintes du marché, et puis le fait qu'ils doivent payer une rente, finit par les éliminer. Mais, ça c'est quelque chose, effectivement, tu as raison, il ne faut pas passer ça trop vite, c'est qu'il y a eu au pic de la Révolution anglaise en 1649, évidemment, on commence sur une révolution un peu comme en France. On commence sur une révolution qui, globalement, n'avantage que... alors, en France, la bourgeoisie d'Ancien Régime. En Angleterre, ce qu'on pourrait appeler l'aristocratie pré-capitaliste, d'une certaine façon. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça.
Une association entre fermiers, capitalistes, marchands...
C'est ça.
Une série de catégories.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça. Bon, on va dire les classes qui vont devenir les classes capitalistes... au début, ça n'avantage que eux, mais évidemment, le processus révolutionnaire, comme ils doivent faire appel aux artisans, beaucoup aux artisans et aux paysans, il y a des moments où la Révolution anglaise, en 1648-1649, elle est au bord d'aller un peu plus loin. Donc, il y a deux mouvements qui illustrent ça. Il y a le mouvement des levelers, donc les niveleurs, d'une certaine façon. Eux, ils sont... pour une espèce de... c'est des artisans, principalement, et eux, ce qu'ils veulent, c'est le droit de vote une espèce de... un peu plus d'égalité économique, entre guillemets. Et il y a un mouvement beaucoup plus radical, qui est le mouvement des diggers, qui proposent carrément de communiser les terres. Voilà. Et de, alors dans un côté, avec un côté un petit peu messianique, c'est-à-dire on va communiser le royaume de Dieu sur terre. Alors c'est évidemment la résurgence de toutes les insurrections paysannes depuis la crise du féodalisme, qui ont parfois eu des phases où un peu euphoriques où la terre est à tous, c'est Dieu qui nous l'a donnée et communisons-la. En fait, Cromwell va écraser ces deux mouvements violemment, en 1649-1650. Donc, c'est malheureusement des mouvements qui ont perdu, mais c'est intéressant de voir que cette révolution qui globalement concerne, deux fractions des classes dominantes, va finir par, comme tout processus révolutionnaire, par faire naître des formes beaucoup plus radicales, au fur et à mesure que les acteurs qui peuvent porter ces formes les plus radicales, c'est-à-dire les paysans et les artisans, notamment les paysans sans terre, vont avoir une place plus importante dans l'armée de Cromwell et tout ça. Mais finalement, Cromwell va écraser cette révolution.
«
simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?